Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, 813, bonjour. Voilà. Avec un S à bonjour, donc.
Au sommaire, Hervé, de ce Variation en noir numéro 20 pour ce dernier vendredi du mois de juin 2015, un livre et une revue. Un livre d'une certaine manière exotique, puisqu'à la veille de la période de congé d'été, il nous emmène dans une région qui est plus connue comme une destination de vacances pour celles et ceux qui apprécient la campagne que comme un terrain propice au roman noir. C'est un roman de Franck Bouys, Grossir le ciel, joli titre, et c'est publié à la Manufacture de Livres. La revue, eh bien, je ne vais pas entretenir le suspense bien longtemps. Il s'agit du numéro 121, tout frais de la revue 813. Voilà pour le programme du jour. Et en prime, quelques conseils de lecture pour cet été à la mer, à la campagne, à la montagne ou à la maison, puisque nous n'oublions pas, bien entendu, celles et ceux, et ils sont nombreux, qui ne partent pas en vacances. D'abord, il y a Gus. Comme chaque jour, Gus s'était levé tôt. Jusque-là, il enfilait ses journées les unes à la suite des autres, comme des perles sur un collier, la précédente ressemblant à la suivante. Gustave Targaud, dit Gus, la cinquantaine, vit seul dans et de sa ferme. Enfin, pas tout à fait seul. Il y a Mars, son chien, et ses 17 vaches, des aubraques et les veaux qu'il élève. Et puis, il y a aussi Abel, son voisin, une autre ferme à 200 mètres de la sienne. Même type d'homme, même type de vie, simplement une vingtaine d'années d'écart, une année de plus pour Abel. Gus et Abel se rendent quelques services et il leur arrive de vider ensemble quelques verres de vin. Pas grand-chose, tout comme leur conversation, mais ça paraît déjà beaucoup dans ce coin paumé des Cévennes entre Alès et Mende, où ils sont nés et où ils vivent toujours. Le lieu dit s'appelle les Doges, un drôle de pays de brutes et de taiseux, écrit notre auteur du jour. Voilà Hervé, pour nous plonger un peu dans l'ambiance de Grossir le ciel de Franck Bouys, la Manufacture de Livres, du polar rural, Hervé ?
Oui, du polar rural, mais avant, je voudrais enchaîner sur le... Voilà, pour faire entendre, comme tu l'as fait aussi, Franck Bouys, juste l'ouverture du livre. C'était une drôle de journée, une de celles qui vous font quitter l'endroit où vous étiez assis depuis toujours, sans vous demander votre avis. Si vous aviez pris le temps d'attraper une carte, puis de tracer une ligne droite entre Alès et Mende, vous seriez à coup sûr passé par ce coin paumé des Cévennes, un lieu-dit appelé les Doges, avec deux fermes éloignées de quelques centaines de mètres, de grands espaces, des montagnes, des forêts, quelques prairies, de la neige une partie de l'année et de la roche pour poser le tout. Il y avait aussi des couleurs qui disaient les saisons, des animaux et puis des humains qui tour à tour espéraient et désespéraient comme des enfants battant le fer de leurs rêves, avec la même révolte enchâssée dans le cœur, les mêmes luttes à mener qui font les victoires éphémères et les défaites éternelles. Tout ça pour aller dans ton sens, pour répondre aussi à ta question, parce que ça pose un décor qui est inhabituel pour le roman français et pour le polar français, qui ne l'est pas tellement si on pense à un grand nombre d'auteurs américains, parmi lesquels on peut citer évidemment Jim Harrison, Ron Rash, des auteurs que nous a fait découvrir également Gallmeister, Rick Bass, etc. Mais Franck Bouys, il pose son livre dans un décor totalement Effectivement, loin des villes où souvent on dit que se passent les histoires policières et criminelles. Et oui, on peut appeler ça, c'est du roman noir rural avec une ampleur. Disons que Buys, il lui donne ses lettres de noblesse, comme l'avait fait peut-être aussi Pierre Pelot, La Forêt muette et d'autres livres. Et puis, dans un autre genre, Jacques Chessex, Jean Giono, voilà.
Oui, bon, j'ai dit polar rural, mais en fin de compte, en le disant, je me rends compte que c'est faible comme comme expression. Bon, c'est un livre dont nous avons eu envie de parler parce que bon, il nous a particulièrement plu. Et on déplore souvent la difficulté du roman français à situer au niveau du réalisme, du réalisme américain. T'as cité des auteurs, Ron Rash, Harrison, Frank Beal, et donc plus que polar rural, on pourrait parler, t'as cité Gallmeister, hein, les éditions Gallmeister, avec une collection Nature Writing. En fin de compte, oui. on s'inscrit plutôt avec ce roman de Frank Buys dans ce Nature Writing, parce que il est vraiment question du quotidien paysan plus vrai que vrai, avec un livre imprégné de ses vies adossées à la nature, qui peuvent sembler d'ailleurs aujourd'hui contre nature, hein, dans un monde où le produit pour s'enrichir, on le consomme pour consommer, et avec une pincée de noir subtilement dosée pour lester juste ce qu'il faut, ce roman du poids de la vie qui ne tourne toujours pas comme on s'y attend, et même là où les journées sont rythmées par la traite des vaches. Donc vraiment, une grande puissance d'écriture en fin de compte.
Ah oui, tout à fait, parce qu'il nous... comme tu l'as dit, tu as situé ces deux personnages, et puis on est dans des lieux isolés où on peut avoir tendance à croire qu'il ne se passe rien. On découvre des personnages que l'on croit simples a priori et à tort, et en fait, Frank Buys, il réussit avec une écriture, c'est pour ça que j'avais envie d'en lire un peu, mais avec une écriture à la fois fluide et superbe, je trouve, à rendre la dureté, l'âpreté des lieux, car ça on le sait avec le nature writing, la nature c'est pas... son roman c'est pas La Petite Maison dans la Prairie, hein. Voilà, il y a une âpreté des lieux et une complexité des hommes qui les habitent, même s'ils ne sont pas nombreux. Il y a d'autres personnages qui vont surgir, il y a de l'inquiétude qui va se propager, et voilà quoi. Pour moi Grossir le ciel, c'est un très beau livre, c'est un livre qui est à la fois très humain et très beau, et vraiment je pense que par ailleurs ça accompagne Frank Buys. Moi je l'avais découvert avec un court roman
ce n'est pas son premier roman, hein, Hervé.
Il en a une demi-douzaine derrière, je crois. Il y en avait un que j'avais lu, Vagabond, qui avait été édité par Cyril Herry aux éditions Écorce, qui sont en terre limousine. Et en fait, Grossir le ciel est à la manufacture de livres, mais a été... C'est en fait, tout ça vient d'une complicité entre Cyril Herry et Pierre Fourniaud, qui dirige la manufacture des livres, où vient d'apparaître une collection commune, Écorce Manufacture, qui s'appelle Territory. Qui va, je crois, creuser ces territoires de l'Hexagone qu'effectivement tous les adeptes des TGV, Grand Paris et tout ce qu'on veut, grands projets nuisibles et inutiles, voudraient voir disparaître, mais dans lesquels il y a peut-être de la vie enfouie.
Oui, tout à fait. Et parce que bon, on parle aussi parfois de romans de terroir, ce n'est pas du tout ça ici. Hein.
Ah non.
Vraiment, je trouve que territory là, ça semble vraiment une bonne appellation, mais nature writing, hein, parce que
oui.
On est aussi confronté au quotidien justement à la réalité quand on est dans l'étable avec Gus, on est vraiment dans l'étable, hein, et il sait de quoi il parle, Franck Bouys.
Oui, tout à fait. C'est cela qui est qui est vraiment ça, c'est un très grand plaisir de j'avais eu cette sensation quand j'avais lu certains livres de Pierre Pelot situait ces romans là en tout cas dans ces Vosges, mais oui, c'est vraiment une très grande force. Oui, comme tu dis, on est loin des romans de terroir préfabriqués par certains éditeurs. Voilà, l'idée c'est pas juste d'intéresser le public cévenol des alentours, c'est à la fois dans un lieu comme ça microscopique mais avec ce souci du détail, une beauté de la langue et une manière de rendre les humains qui est en fait universel. C'est comme les grands Américains, quoi.
Voilà. Alors le rural, bon, j'utilise ce mot, hein,
oui.
Le rural, l'avenir du noir, avec un point d'interrogation, parce que j'entendais Hervé Aurélien Masson, le directeur de la série Noire, dans une émission de radio, il y a peu de temps, à l'occasion des 70 ans de la série Noire, annoncer pour 2016 une série de romans à la série Noire, de romans noirs ruraux.
Je sais pas, moi je pense pas que ça c'est une très bonne nouvelle, mais je veux dire que l'avenir du noir ne se décrète pas de toute façon, donc je pense que le noir est de l'avenir devant lui, ça c'est clair, dans son rôle de description du monde, sous tous ses aspects. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il est évident qu'avec des auteurs comme Franck Bouys et d'autres, que ce soit donc à la série Noire, que ce soit chez Territory, la manufacture, c'est évident que le rural, ce qu'on appelle la campagne, ne va pas être oublié, et que on est aussi dans la lignée des souris et des hommes de Steinbeck, par exemple, et que il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas ici. Évidemment qu'il ne se passe pas, il n'y a pas des histoires à raconter qu'à Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, etc.
Alors, c'est mieux dit comme ça, hein, qu'effectivement, que l'avenir du noir. Un mot Hervé sur la manufacture de livres. Bon, tu as déjà évoqué cette nouvelle collection, mais d'une manière générale, un éditeur qui s'installe quand même dans le...
éditeur qui s'installe. C'est un éditeur qui a, je crois, commencé surtout en publiant des livres, des documents consacrés à ce qu'on appelle le true crime, c'est-à-dire des affaires criminelles, avec des mémoires de truands, avec repartant sur des affaires policières, des choses comme ça. Et puis
récemment, on peut citer Lucky Luciano Testament.
Par exemple, évidemment, tout à fait. Qui continue dans cette veine, il y a un livre très intéressant qui est sorti il y a très peu de temps, de Christian Roll, qui s'appelle Le roman vrai d'un fasciste français, et qui en fait, est un roman, et cela est dit très clairement, hein, qui vient d'un activiste de l'extrême droite absolument infréquentable, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, il y a des révélations sur les assassinats dans la fin des années 70 de Henri Curiel, puis de Pierre Goldman, et c'est particulièrement... c'est peu dire que c'est très instructif.
Et puis aussi, voilà. Donc, à la manufacture de livres, des romans, donc Grossir
romans,
le ciel, framboise, mais des auteurs.
Par exemple, dont on a longuement parlé à plusieurs reprises ici, et en public à Arras d'ailleurs.
Ouais, voilà. Une petite pause musicale. Clearwater, un morceau très connu, extrait d'un album qui s'appelle Bayou Country. Alors, Frank Buis, Grossir le ciel, on n'était pas dans...
Bravo à vous, parce que la bande-son de cette émission est extraordinaire.
On n'était pas dans le Bayou avec un Grossir le ciel dans les Cévennes, mais bon, il y a quand même...
L'écho était très bien prouvé, oui.
Merci Hervé. Alors, avant d'en venir, Hervé, au numéro 121 de la revue 813, qui est tout frais, qui vient d'arriver dans les boîtes aux lettres des adhérents de l'association, des abonnés à la revue, l'autre actualité quand même de l'association des Amis des Littératures Policières, c'est les trophées. Les trophées qui seront décernés au mois de septembre, octobre prochain
Décernés le 4 octobre à Villeneuve-les, dans le cadre du festival de Villeneuve-les Avignons.
Voilà. Et donc là vient d'être rendue publique la sélection.
Donc, que tu connais bien, donc.
Voilà, je connais un petit peu le fonctionnement, effectivement. Donc, on va commencer par la sélection du roman francophone, Hervé, puisque dans les 5 titres présélectionnés figure Grossir le ciel de Frank Buis.
Eh bien oui, c'est donc voilà, ça tombe effectivement très bien et ça fait plaisir que, puisque c'est un vote des adhérents qui le désirent, hein, il n'y a pas de jury littéraire, si ce n'est un jury de tous les adhérents de l'association. Et donc, dans l'ordre alphabétique,
oui, vas-y.
On trouve Frank Buis avec Grossir le ciel, Hervé Lecor avec Après la guerre, Jérôme Leroy avec L'ange gardien, Nicolas Mathieu avec Aux animaux la guerre, et Elena Piacentini avec Des forêts et des âmes. Ça fait très très plaisir parce que ça me paraît une sélection vraiment très très riche, très où tous les cinq livres sont tous d'une grande qualité littéraire, sont tous très passionnants, chacun à leur façon. Enfin bon, bref, vraiment, je suis d'autant plus...
Une bonne sélection et surtout, donc en fin de compte, de bons conseils, hein, c'est ce que je disais en introduction, de bons conseils de lecture pour cet été.
Moi, je ne suis qu'un votant parmi les 120, je crois, qui ont voté cette année au premier tour, puisque maintenant il va y avoir un deuxième tour pour choisir le gagnant. Mm-hmm. Mais en même temps, voilà, moi, d'un avis de lecteur et de simple votant, je trouve que c'est vraiment une très belle sélection française.
Alors, on va aussi annoncer la sélection du roman étranger, du roman.
Alors.
Avec un Nature Writing, Ron Rash.
Ah ben tout à fait, quelqu'un dont on a parlé, mais qu'on va trouver à la fin, l'ordre alphabétique oblige.
Oui, il faut respecter cette neutralité.
On a Sannenberg, 911, Peter May avec L'île du serment, Deon Meyer avec Cobra, Leonardo Padura avec Hérétique, et Ron Rash avec Une terre d'ombre. Je pense que c'est à lui que tu faisais allusion.
Exactement. Il y a aussi,
une remarque quand même, ce qui est très intéressant.
Vas-y.
C'est que là aussi, on va dans des... on va dans des... C'est également une belle sélection et on va dans des territoires très différents. Donc ça prouve aussi une variété d'intérêt, il n'y a rien d'univoque dans tout cela, quoi, parce que de Deon Meyer à Padura, ou de Ron Rash à Peter May, enfin bon, ou le New York de Shannon Burke, etc., c'est tout ça, et voilà, ce sont des terrains très, très divers et des beaux livres.
Alors, il y a aussi une sélection BD, une sélection sur les essais. On ne va pas donner les titres. On peut inviter les auditrices, les auditeurs à se connecter sur le blog de 813 où ils trouveront retrouveront les titres.
Hein, des blog 813, hein, sans mettre, j'ai pas la... Voilà. Ils trouveront la sélection complète.
Et donc, vraiment, en tout cas en ce qui concerne les romans français et francophones et étrangers, vraiment de bons conseils de lecture pour cet été. Alors, la revue...
Pour ceux qui s'intéressent aussi à l'histoire du genre, un bon conseil de lecture aussi, c'est... l'anthologie du roman policier sous le Troisième Reich, Crimi de Vincent Platini, qui a été publié chez un petit éditeur de Toulouse, Alain Carcis, et qui est vraiment un bouquin qui bouscule des tas d'idées reçues et qui est vraiment passionnant, avec en plus des extraits inédits de Polar publiés sous le Troisième Reich. Et on est à la fois passionné et étonné par ce que nous en raconte l'auteur.
Alors donc, numéro 121 de la revue 813, j'ai envie de dire hommage et anniversaire, hommage aussi. On ouvre la revue et bien sûr un portrait d'Afed Benotman, Hervé. Un très joli portrait, magnifique photo.
On a voulu ouvrir avec cette photo de Romain Slocombe qui offre un Afed Benotman au regard pétillant et
exactement.
Voilà.
Donc on en a déjà parlé ici même d'Afed Benotman, de la même manière Jean-François Villard, hein, puisque c'est le deuxième hommage que l'on trouve dans la revue 813. Hervé,
deux hommages construits
différemment.
On avait vu qu'il y avait des gens qui s'étaient manifestés, et donc des points de vue de celui d'un journaliste, Yann Plougastel, du Monde, celui de l'éditeur Jean-Christophe Brochier, qui fut l'éditeur des Visages écrasés de Marin Le Dain, parmi d'autres choses, et de l'écrivain Hervé Lecor, dont on a parlé, plus un texte de Jean-François Villard qui était paru dans un fanzine dans les années 80, qui est un texte sur Dashiell Hammett.
Oui, ça c'est vraiment un texte à lire, hein, ça s'appelle La fatigue et le silence.
Oui.
On rend hommage dans 813, hein, donc à Fête Ben Othman, à Jean-François Villard. On peut quand même citer, Hervé, la disparition récente de Jean Vautrin. Alors bien
oui,
sûr, hein, ça n'apparaît
pas. Voilà, moi Jean Vautrin, ça a fait partie. J'avais déjà lu Manchette et puis aussi ADG, mais chez les Français. Mais ça doit être le troisième auteur français que j'ai lu. Dans la deuxième moitié des années 70, quand est paru Billy the Kick.
Billy the Kick.
Et pour moi, ça a été une sacrée claque parce que il y avait une histoire, mais il y avait ce côté, il y avait une histoire polar qui se passait ici, qui était dans nos banlieues, tout ça. Mais il y avait aussi cette langue, que Vautrin a toujours eue, absolument à la fois savoureuse, colérique, révolté, enfin bon, ce que Jean Vautrin a été, quelles que soient les récompenses et tout,
c'est
quelqu'un qui a jamais bougé d'un... Enfin voilà, c'est quelqu'un...
Oui, il a eu le prix Goncourt. Il a eu le prix Goncourt, mais...
Mais il n'est pas pour autant... il continuait à aimer, il a continué d'ailleurs, il a écrit des tas de choses, il a continué aussi à avoir une fidélité avec le roman noir, il avait publié Le Roi des Ordures et tout, et puis avec la littérature populaire, sa série avec Dan Frank.
Et puis aussi le cri du peuple.
Il y a eu le cri du peuple, qui a été la rencontre avec et les choses, toutes les choses faites avec Tardy.
Voilà, c'est ça.
Évident que voilà.
Jean Vautrin et Tardy qui étaient ensemble à Arras en 2003 ou 2004, hein, justement à l'occasion de la sortie au Salon du Livre du 1er mai, de la sortie du cri du peuple.
Et donc, effectivement, un grand salut et vraiment un total respect.
Donc il y aura peut-être un retour sur Jean Vautrin dans un prochain numéro de 813.
Malheureusement, ce n'est pas du tout qu'on aime faire, qu'on aime faire des nécrologies, tu t'en doutes, et les auditeurs s'en doutent, mais on considère que, par ailleurs, je crois que c'est une chose qui était chère à Jean-Patrick Manchette, c'est l'idée aussi que il y a une mémoire au sens le plus fort du terme à garder dans le roman noir également, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont compté et qu'on peut avoir tendance à oublier parce que comme Jean-François Villard, ils ont arrêté d'écrire parce que pour d'autres raisons, parce qu'ils sont soudain stoppés et il y a des gens qui lisent du polar depuis très longtemps, et puis il y a des questions de génération, tout bêtement, mais l'idée est qu'il n'y ait pas... on sait très bien, il faut toujours faire attention à ça, il peut y avoir soudain un vide qui fait que, après peut-être ils ressortiront, mais que des gens courent le risque d'être oubliés alors qu'ils ont été très importants. Donc c'est pour ça qu'on... on n'en parle pas pour le plaisir d'un pathos quelconque, bien évidemment.
Bien sûr. Et justement, en discutant, moi, je repense à un roman que j'ai beaucoup aimé de Jean Vautrin, Canicule. Hein, on parlait de polar rural, entre guillemets, bien entendu, on s'entend. Mais c'est aussi terrible.
Mais rural ne me paraît pas quelque chose de péjoratif.
adapté au cinéma, je pense que c'est pareil, Boissé. Enfin, un roman assez formidable aussi, qui se passe dans le monde paysan. Hervé, il nous reste deux petites minutes, c'est beaucoup trop court pour évoquer les deux dossiers donc de 813, les anniversaires. Alors, tu as cité Manchette, donc un des deux dossiers c'est Manchette 20 ans après. Je te propose, Hervé, de revenir sur les 20 ans en commémore la disparition de Jean-Patrick Manchette, qui est mort il y a 20 ans.
On pourra de toute façon en reparler.
On en reparlera.
Il va y avoir un colloque à la rentrée à Bordeaux, et il y aura des tas de raisons de
on en reparlera, on fera peut-être une émission autour de cela à la rentrée,
c'est
un rendez-vous. Alors, l'autre dossier...
Il y a un autre anniversaire qu'on fête, effectivement.
Vas-y, je te laisse annoncer l'autre dossier, l'autre anniversaire.
L'autre dossier, c'est les 20 ans d'un personnage... qui est Gabriel Le Couvreur, qui est le poulpe, parce que la collection a 20 ans. Et il faut rappeler qu'elle a cette originalité très forte, très profonde, parce que des séries avec des récurrents, il y en a eu avant, bien évidemment, ça c'est pas ça. Celle-là, la première, on sait que l'idée est venue de Jean-Bernard Pouy avec comme complice Patrick Reynal et Serge Quadrupani. mais que ensuite, si ces trois-là ont écrit les trois premiers, après, eh bien, cette aventure du même, les aventures de ce même personnage ont été à chaque fois confiées à des auteurs différents, ce qui cela était une première, était quelque chose de fortement original. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que au fil du, de ces 20 ans, eh ben, évidemment, il y a eu des hauts, des bas, tout ce que l'on veut. La société a changé. Quand le Poulpe apparaît, il apparaît au moment où, à la fois, on a un Front National qui monte, on a Juppé droit dans ses bottes, on a les plus grandes grèves que la France ait connues depuis 68. Et en même temps, et puis la misère qui commence à s'installer dans ce pays... et le chômage, tout ça, et puis, eh bien, cet esprit libertaire, ni justicier, ni détective, ni flic, évidemment, mais qui est juste d'un personnage énervé par les injustices, par des tas de choses, qui est le Poulpe, eh bien, il a continué ses aventures, il continue aujourd'hui, le Poulpe et tous ses tentacules, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des auteurs qui ont envie, qui s'inscrivent sur la liste, qui ont envie de s'en emparer, des auteurs apparus, par exemple, récemment dans le paysage, il y a eu Karim Madani, Hervé Sarr, là, il vient d'y avoir Thierry Bourcy, qu'on connaissait pour ses romans dans les tranchées de 14-18, enfin, voilà, et ça, c'est... Voilà, ça, c'est un...
Donc tout ça,
une belle vitalité.
Oui, tout ça à découvrir dans le dernier numéro de la revue 813, hein, qu'on peut se procurer, cette revue. On peut la commander par l'intermédiaire du blog, Hervé ?
Oh oui, il suffit de passer par le blog, il y a tous les renseignements, et donc c'est facile de cette manière-là.
Donc voilà, et pour conclure sur ce dossier, on peut quand même citer en regard au Poulpe trois articles, un consacré à Maigret, un à San Antonio et un à SAS.
Voilà, parce qu'on a voulu, on en a profité pour faire un... parler de trois héros récurrents, très différents.
Voilà.
Et ben voilà, c'était une manière de parler aussi de ce qu'on a appelé les séries fleuves à la française. Voilà.
Donc 813 numéro 121, c'était Variation en noir sur Radio PFM dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Encore merci, Hervé.
Eh ben merci, et puis bonnes vacances.
Oui. Et merci
à toi, à Bernard.
Ouais, voilà, merci à Bernard de nous avoir accueillis pour cette deuxième année dans son émission. Voilà. Hervé, que dis-tu de prolonger le bail pour une nouvelle année de Variation en noir ?
Oh, je suis partant si vous le voulez bien.
Voilà, Bernard semble OK, donc rendez-vous fin septembre pour de nouvelles explorations en noir. De bien bonnes lectures à toutes et à tous.